Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver pour notre première chronique de l'année 2023, Daniel. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler d'Israël. Israël qui vient d'avoir un nouveau gouvernement. Alors, on va pas parler des ministres et de sa composition en tant que telle, hein. Les médias le font bien assez. On va parler du point de vue de la politique extérieure d'Israël. Alors, on le sait, l'architecte de la politique externe d'Israël depuis ces 12 dernières années, c'est Benjamin Netanyahou, le premier ministre. Il revient donc au pouvoir. Et alors, Daniel, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Bibi va reprendre sa même diplomatie dont tout le monde, finalement, a salué le succès dernièrement?
Ben oui, il en a très envie. Il a un ministre des Affaires étrangères. Vous savez que dans le passé, quelquefois, lui-même a endossé le poste de ministre des Affaires étrangères. Là, il en a un qui est un proche. Et donc, c'est évidemment Netanyahou qui va mener cette politique extérieure. Cette politique extérieure, on pouvait dire qu'elle était une diplomatie tous azimuts. Pour Israël, c'était important d'avoir des bonnes relations avec tous les pays du monde. Et il était, d'une certaine manière, bien arrivé. Je n'ai pas le temps de reprendre tout ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il va le faire dans une situation mondiale qui est quand même, depuis qu'il est parti, qui s'est beaucoup dégradée. Et lui, donc, qui avait réussi à capitaliser sur la bonne image d'Israël, la Startup Nation, etc., avait réussi à nouer des relations de pays à pays, des relations bilatérales avec de très très nombreux pays. J'avais souvent conclu que finalement le seul adversaire d'Israël, c'était plus un ou quelques pays, c'était quelques organisations internationales, l'ONU avec ce fameux Conseil des droits de l'homme, ou les organisations non gouvernementales comme le BDS. Ça, c'était resté des ennemis, mais ce sont des ennemis collectifs, ce sont pas des pays. Et donc avec chacun des pays, Israël avait de bonnes relations. Et donc, il va essayer de les reprendre, mais dans une situation, comme je le disais, très dégradée.
Alors justement, Daniel, vous dites que la situation s'est beaucoup dégradée. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être?
Ben oui, on se souvient que Trump en 2018 s'en est pris à la Chine, avec lequel Israël avait de bonnes relations, et on voit que Biden fait suite à Trump et considère finalement que la Chine est presque plus qu'un rival, c'est en train de devenir un ennemi. Alors ça arrange pas les affaires d'Israël, qui voudrait garder avec la Chine de bonnes relations. Le Covid a fracturé les échanges internationaux. La guerre, une guerre horrible, se déroule en Europe et ça met Israël en grande difficulté. Et puis il y a cette crise économique qui touche tout le monde. Alors on a vu qu'Israël était capable au fond, de s'en sortir plutôt bien sur le plan économique, car c'est un pays qui est plutôt bien géré. Mais bon, cette situation dégradée pèse sur la politique extérieure d'Israël, pèsera. Par contre, il y a un élément d'espoir qui est très nouveau, qui est presque miraculeux, dont on parle et qu'il faudrait à mon avis, qui va devenir central d'ailleurs dans la politique extérieure d'Israël, c'est ces fameux accords d'Abraham qui vont probablement devenir un petit peu le centre d'intérêt d'Israël.
Alors comment Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, peut utiliser ces accords d'Abraham pour tenter d'échapper justement à la situation très dégradée?
En fait, les accords d'Abraham relient Israël avec, au fond, une grande partie des pays qu'on va appeler arabes sunnites, face à un ennemi commun qui est l'axe chiite dirigé par l'Iran. Au fond, Israël a un double possibilité. La première, c'est d'exploiter au mieux ces accords d'Abraham, et deuxièmement, faire en sorte que le Moyen-Orient, grâce à ces accords d'Abraham, soit le lieu où toutes les grandes puissances et toutes les puissances du monde vont pouvoir se rencontrer et permettre à Israël d'établir des liens. Je vais essayer d'expliquer ça. D'abord, sur les accords d'Abraham lui-même, il faut les rendre concrets, il faut les faire vivre, il faut surtout les élargir. C'est signé avec simplement quelques pays. Et on voit bien que l'Égypte et la Jordanie, qui ont déjà signé des traités de paix, sont tentés d'entrer dans ce système de coopération active que sont les accords d'Abraham. Et puis, il reste évidemment la question de l'Arabie saoudite, qui est le grand pays arabe sunnite aujourd'hui. Même s'il est moins peuplé que l'Égypte, il est beaucoup plus riche. C'est lui qui est au fond le leader de ces Arabes sunnites. Et on voit bien qu'avec Israël, on est proche d'un rapprochement, mais que ça ne peut pas se faire. Et donc c'est toute la politique d'Israël qui va être dirigée vers cela. Mais en même temps, ce Moyen-Orient qui est revivifié par ces accords d'Abraham va attirer toutes les grandes puissances avec lesquelles Israël a besoin d'avoir de bonnes relations. C'est surtout le cas des Américains. Les Américains ont inventé les accords d'Abraham, ou les ont sanctifiés, pourrait-on dire, parce que c'est l'intérêt des États-Unis. Grâce aux accords d'Abraham, les États-Unis sont présents au Moyen-Orient, sans y être en première ligne. Je l'ai déjà souvent évoqué. Donc, grâce à Israël, grâce aux amis américains que sont les pays arabes sunnites, vous avez tout un camp pro-américain qui peut se défendre tout seul face à un Iran qui est d'autant plus dangereux aujourd'hui que on voit bien que l'accord iranien ne sera jamais signé. Donc là, on est vraiment dans une situation, dans cette aube de l'année 2023, où on a un Iran qui va devenir, avec un grand risque de devenir nucléaire, à moins qu'il y ait une intervention. Et donc, il faut unifier tous les pays qui ont besoin de se protéger contre l'Iran. Et les États-Unis sont arrivés, avec ces accords d'Abraham, à faire cette unification. De même, on voit que la Russie est empêtrée dans cette guerre ukrainienne qui va, je pense, sceller un destin assez funeste pour la Russie, est obligée de se dégager du Moyen-Orient, et elle a quand même réussi à avoir avec Israël une sorte de modus vivendi. Hein. Vous vous souvenez, Bennett était allé à Moscou, on a cru qu'il voulait jouer les intermédiaires sur la guerre russo-ukrainienne. Je crois qu'il est surtout allé négocier des accords pour Israël, à savoir, cher ami Poutine, nous allons intervenir en Syrie pour bombarder des bases iraniennes. Vous êtes le soutien de la Syrie, vous êtes un ami pour l'instant de l'Iran, mais permettez-nous de le faire. Et on voit que Poutine a donné son accord. Donc ça, c'est quand même aussi un des effets de cette centralité du Moyen-Orient. L'Europe se redécouvre intéressée par le Moyen-Orient, parce qu'il y a le gaz, non seulement le gaz israélien, mais le gaz chypriote, le gaz égyptien, le gaz libanais. Tout ça, c'est pain béni pour l'Europe, qui a besoin de remplacer le gaz russe. Et donc, il y a des accords qui se font en Méditerranée orientale autour d'Israël pour fournir du gaz à l'Europe. Donc l'Europe se rapproche du Moyen-Orient et se rapproche beaucoup d'Israël. Et il reste la Chine. Et là, on ne savait pas trop ce que la Chine voulait faire du Moyen-Orient. Maintenant, on le sait. Xi Jinping est allé à Riyad. On en a parlé. C'est vraiment un coup de tonnerre extraordinaire. Et il est allé pendant plusieurs jours parler non seulement à l'Arabie saoudite, mais à tous les pays arabes de la Ligue arabe et aux pays du Golfe. Et tout ça va dans le sens des accords d'Abraham et des intérêts d'Israël. Et surtout, ça ne va pas du tout dans le sens de l'Iran, qui prétendait être l'allié privilégié de la Chine. Et on a bien vu que ces accords stratégiques de la Chine avec les pays sunnites, ça se fait aux dépens de l'Iran. Donc voilà un paysage qui est, je pense, permettra à Israël d'avoir de bonnes relations avec les grandes puissances à partir du Moyen-Orient.
Alors en conclusion, Daniel, est-ce qu'on peut dire que l'horizon international est assuré pour Israël?
Non, non, il reste toujours cette ombre de la question palestinienne. Bien sûr, elle a été contournée par un certain nombre de pays arabes à l'occasion de la signature des accords d'Abraham. Contournée, mais pas oubliée. Elle est toujours là. Et au contraire, les Palestiniens, on voit bien qu'ils font tout pour que cette question ne soit pas oubliée. Elle est relancée à l'ONU, elle est relancée par plusieurs organisations internationales. Et au fond, les pays arabes sunnites sont obligés de temps en temps de rappeler que cette question doit être réglée. Et alors, cette question prend une dimension nouvelle avec ce nouveau gouvernement, puisque on a commencé comme ça, on va terminer avec ce nouveau gouvernement qui inclut des partis qui ont des visions, en particulier le parti sioniste religieux, qui ont des visions claires sur ce qu'ils ont envie de faire avec la question palestinienne. Ils ont une vision, je dirais, rigoureuse et qu'on peut comprendre. Et donc, les risques sont que s'ils prennent des initiatives qui accroissent les tensions tensions avec les Palestiniens, ces tensions-là pourraient mettre en péril toutes les bonnes relations qu'Israël construit avec les pays arabes sunnites et avec toutes les grandes puissances autour de cette question palestinienne. On voit que cette question palestinienne, elle est toujours là. Elle a isolé Israël dans le passé. Aujourd'hui, elle risque de mettre en péril cette politique de cette diplomatie tous azimuts positive. Et ça sera le problème principal de Bibi Netanyahou dans les mois, les années qui viennent.
Et on imagine qu'on aura bien évidemment l'occasion d'en parler ensemble tout au long de cette nouvelle année. Merci beaucoup, Daniel Haber, pour vos éclairages. Comme chaque fois, très bonne semaine à vous, très bon début d'année 2023 à vous et à la semaine prochaine.
Bonne année à tous, au revoir.